بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد. Toutes les louanges vont à Allah. Toutes les louanges vont à Allah. Allah est celui qui a créé les cieux et la terre, a établi les ténèbres et la lumière. Et pourtant, les non-croyants donnent des égaux à leur Seigneur. Toutes les louanges vont à Allah. Allah, le Créateur des cieux et de la terre. Allah qui a fait des anges, des messagers, dotés de deux, de trois ou de quatre ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut, car Allah est capable de toutes choses. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration que Allah, l'unique sans associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Son Seigneur l'a envoyé comme guide, comme annonciateur et comme avertisseur, appelant les gens à Allah par sa permission et comme une lampe éclairante. Par lui, Allah a ravivé les cœurs. Par lui, Allah a éclairé les esprits. Par lui, Allah a fait que les oreilles entendent et que les yeux voient. Que les prières et le salut d'Allah soient sur lui, sur sa famille, ainsi que sur ses compagnons. Allah lui dit dans le Coran, et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit provenant de notre ordre. Tu n'avais pourtant aucune connaissance du livre ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et en vérité, tu guides vers un chemin droit. Mes très chères sœurs, mes très chers frères, de nos jours, les nations s'attachent à des symboles, à des souvenirs, à un tel point que ces symboles sont divinisés. Ils sont encensés nuit et jour. Quant à nous autres musulmans, nous n'avons pas dans ce bas monde d'éléments ou de rituels que nous divinisons. Nous avons un homme que Allah le Très-Haut a élevé pour être notre imam, pour être notre modèle, tout en étant exempt de faute. Il était un exemple pour nous, tout en étant le plus honnête. Il était notre professeur, tout en étant notre lumière. Allah nous dit, vous avez certes dans le messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était analphabète. Il ne savait ni lire ni écrire. Il ne possédait ni plume, ni livre, ni porte-documents. Mais Allah a choisi son cœur pour y placer la révélation divine. Alors, il lui a fait retenir tout le Coran par cœur. Les gens ont des symboles, des idoles ou des maîtres qui répandent le sang, pillent les richesses et tyrannisent les peuples. Et nous autres musulmans, nous avons un homme dont les qualités sont la chasteté, la pureté, l'intégrité, la justice et la vérité. La mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Amina, raconte « Je l'ai porté dans mon ventre, mais je n'ai jamais senti les désagréments d'une grossesse. » Et lorsqu'elle le mit au monde, il naquit en étant prosterné, en sujoud. Puis, dès son apparition sur terre, il fut soumis et se prosterna au Dieu unique. Elle raconte également qu'avant la naissance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle vit une nuit surgir de son ventre une lumière d'une telle intensité que celle-ci éclairait les palais de Syrie. Et avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son père mourut. Il fut donc orphelin de père de naissance. Il ne connut jamais son père. Quant à Amina, sa mère, elle ne resta que très peu à ses côtés et mourut alors qu'il était encore un enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était donc un orphelin de père et de mère, avec ce que cela implique comme précarité, pauvreté, faim et soif, cela afin que son attachement à Allah soit encore plus fort. Avant le décès de sa mère, il fut emmené chez Halima, qui allait devenir sa nourrice, sa mère de lait, chez les Banu Sa'd, qui vivaient en dehors de la ville de la Mecque. Et Halima raconte nous vivions dans une pauvreté extrême, dans une région très aride. Et je jure par Allah que cette année-là, il ne tomba aucune goutte de pluie et rien ne poussa dans nos terres. Et lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, arriva chez les Banu Sa'd, alors qu'il n'était encore qu'un enfant, les nuages emplirent le ciel et il plut jusqu'à ce que des petits cours d'eau commençaient à couler et que les vallées furent couvertes de verdure. Les gens pouvaient faire traire leurs bêtes abondamment jusqu'à ce qu'ils aient rempli tous leurs ustensiles. Les gens vivaient alors dans l'aisance. Halima, radiyallahu anha, qui a embrassé l'islam plus tard, racontera, lorsque la nuit tombait, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sortait de la tente alors qu'il n'était âgé que de 2 ans. Il observait et analysait les étoiles. Rendez-vous compte, mes frères, un enfant de 2 ans qui contemple les étoiles et se pose des questions à propos du ciel. Subhanallah. Halima raconte, il sortit un jour avec son frère de lait. Il était berger, il gardait des chèvres, il gardait des moutons, il gardait un troupeau. Oui, mes frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant d'être le berger de l'humanité, fut le berger de troupeaux de bêtes. Halima continue son récit en disant, et lorsqu'ils sortirent ce jour-là pour aller garder les bêtes, 2 hommes vinrent à eux. L'un d'eux ouvrit la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, retira un point noir de son cœur. Qui sont donc ces hommes? Il s'agit de 2 anges. 2 anges envoyés par Allah le Très-Haut. Ces anges avaient en leur possession un récipient en or dans lequel il y avait de l'eau bénie de Zamzam. Ils s'approchèrent du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ouvrirent sa poitrine bénie. D'ailleurs, certains commentateurs du Coran prétendent que c'est à cet épisode que fait référence le verset suivant « N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine ?» Après avoir ouvert sa poitrine, les anges ôtèrent de son cœur un petit point noir. En effet, mes frères, chacun de nous a dans le cœur ce point noir qui contient la jalousie et la haine, qui contient la trahison et la rancune. Ensuite, les anges lavèrent le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec de l'eau de Zamzam. Puis, par la grâce d'Allah, ils remplirent son cœur de sagesse et de foi. Ils fermèrent enfin la poitrine du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puis s'en allèrent. Le compagnon Anas radiyallahu anhu racontera beaucoup plus tard qu'il pouvait voir les cicatrices sur la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il avait à peu près 60 ans. Apeuré, il fut alors ramené à sa mère de lait, Halima, à laquelle l'histoire de l'ouverture de la poitrine fut racontée. Effrayée, elle décida de le raccompagner et de le rendre définitivement à sa vraie mère. Il retourna alors à Mecca, où il grandit dans la dignité et dans la fierté. Jamais il ne s'abaissa devant une idole. Jamais il ne but de boisson enivrante. Jamais il ne commit de vol, de traîtrise, de mensonge ou de tricherie. Il est rapporté dans le recueil de récits authentiques de l'imam muslim, rahimahullah, que parfois le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam passait dans certaines vallées de la Mecque. Alors il croisait un rocher et ce rocher lui disait « Salut à toi, ô messager d'Allah ». Parfois c'était un arbre qu'il croisait et l'arbre lui disait « Salut à toi, ô messager d'Allah ». Et cela avant que Allah ne lui fasse la révélation qu'il était son messager. Un arbre et un rocher le saluaient en le reconnaissant comme étant le messager d'Allah. Et lorsque cela se produisait, il était effrayé et paniqué. Il avait beau regarder partout, il ne voyait rien d'autre qu'un arbre ou un rocher. Il grandit donc orphelin et il a patienté dans la misère. Il ne savait ni lire ni écrire. Et lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans, il était à la Mecque un modèle de pudeur, d'honnêteté, de droiture et de modestie. Mais malgré cette reconnaissance universelle dans la région, plus tard, après qu'il lui fut révélé qu'il était le messager d'Allah, ses contemporains le traiteront pourtant tout de même d'imposteur. En effet, plus tard, ils le feront passer pour un magicien, un charlatan ou un poète, un fou. Mais son Seigneur, le Très-Haut, le défendra en disant dans le Coran, votre compagnon n'est nullement fou. Et Allah le défendra encore en disant, ceci est la parole d'un noble messager. Et que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu. Et ce n'est pas la parole d'un devin, mais vous ne vous rappelez que bien peu. Comment pouvait-il être hier le digne de confiance, Al-Amin, le véridique et le sincère, pour devenir aujourd'hui le fou, le menteur, le voleur et le magicien? On le prenait hier comme exemple et comme modèle, et aujourd'hui il s'est métamorphosé. Aujourd'hui il s'est métamorphosé en ennemi. Il entreprit un voyage à l'âge de 25 ans. Il descendit à Bosra, dans l'actuel Irak. Ce jour-là, un nuage vint se poser au-dessus de lui, alors qu'il était avec le troupeau de chameaux. De plus, il se trouvait un arbre connu dans cette région, parmi les érudits, des gens du livre, les juifs et les chrétiens, qui disaient que cet arbre, sous cet arbre, ne s'assoit que des prophètes. Sans connaître la région, ni l'histoire de cet arbre, et encore moins son emplacement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam laissa tous les arbres du coin pour venir s'installer exactement sous l'arbre auquel faisaient référence les savants juifs et chrétiens. Un jour, les habitants de la Mecque, les tribus de Quraysh, eurent une dispute à propos de la pierre noire. En effet, les Mécois avaient entrepris de détruire la Kaaba pour mieux la reconstruire. Et lorsqu'ils eurent achevé la reconstruction, ils eurent un désaccord concernant celui qui devait replacer la pierre noire dans le coin de la Kaaba. Les quatre tribus de Quraysh étaient à ce niveau de conflit, chaque tribu exigeant que ce soit l'un des siens qui replace la pierre noire. Le différend s'aggravait peu à peu et allait se transformer en lutte armée. Ils se mirent d'accord sur la proposition suivante. Le premier homme qui entrera dans l'enceinte sacrée autour de la Kaaba prendra la décision. C'est alors qu'entra dans l'enceinte sacrée de la Kaaba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cet épisode se produisit avant la révélation, époque où il était déjà considéré par tous comme l'homme digne de confiance. Dès qu'ils le virent, ils s'exclamèrent « Voici Al-Amin, le digne de confiance. Nous acceptons son arbitrage. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. » Lorsqu'ils le mirent au courant de l'affaire, il décida de placer la pierre noire sur un vêtement, sur un manteau. Il demanda ensuite au chef de chacune des quatre tribus de prendre un coin du vêtement. Ainsi, chaque tribu participait à la remise en place de la pierre. Puis, lorsqu'ils portèrent le vêtement contenant la pierre jusqu'au coin de la Kaaba, il prit lui-même la pierre noire de sa main bénie et la remit à sa place dans le coin de la Kaaba. Le temps passait, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam entrait dans la trentaine, il donnait les signes de quelqu'un que la vue de ce bas monde désintéresse totalement. Il semblait avoir compris que ses concitoyens s'étaient trompés dans leur conception de la vie. Rappelez-vous qu'il avait toujours refusé de se soumettre à un autre Dieu que le Dieu unique, Allah le Très-Haut. Il s'était donc mis à la recherche de la vérité. Mais bientôt, le Seigneur de toutes choses, Allah, allait lui envoyer un émissaire de choix pour l'éclairer dans sa quête, l'ange Jibril, l'ange Gabriel, alayhi salam. Il sortait souvent de la ville de Mecca pour méditer et penser à la création. Pour cela, il avait pris l'habitude de s'installer dans la grotte de Hira, qui était située dans les hauteurs des banlieues de la Mecque, dans le mont Jabal al-Nur, le mont de la lumière, à quelques kilomètres de la Mecque. Dans sa méditation, il s'adressait à Allah de son cœur, car il savait que ce monde avait un Dieu créateur et bienfaiteur qui mérite la reconnaissance et l'adoration. Il passait son temps à l'adoration et à la réflexion sur les signes de l'univers qui l'entourait, ainsi que sur la puissance créatrice que tous ces signes cachaient. Mais à ce moment-là, il n'avait pas de livre lui expliquant comment adorer son Seigneur. Il ne savait pas encore comment prier. Le Coran dit « Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi, mais nous avons fait une lumière mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Allah nous dit également dans le Coran, et avant cela, tu ne récitais aucun livre et tu n'en écrivais aucun de ta main droite. Sinon, ceux qui nient la vérité auraient eu des doutes. Donc, mes frères, ils méditaient dans cette grotte. Ils y demeuraient parfois plusieurs jours consécutifs, pris par ses pensées. Ils redescendaient vers son épouse. Ils redescendaient vers son épouse Khadija radiallahu anha, quelque temps, s'approvisionnaient, puis ils retournaient à ses méditations dans la grotte de Hira, et ainsi de suite, jusqu'au moment où la vérité apparut dans la grotte. C'est lors de l'une de ces excursions que Allah le Très-Haut envoya son émissaire. Il envoya Jibril alayhi salam, l'ange Jibril, Gabriel en français, et celui qui est chargé par Allah de transmettre ses messages. Plus tard, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous racontera que dans son apparence originelle, l'ange Jibril est un ange d'une taille inimaginable que Allah a gâté en le dotant de 600 ailes, en sachant que chacune de ces ailes couvre l'espace compris entre l'Orient et l'Occident. Donc ce jour-là, Jibril alayhi salam surprit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte. Il entra sous la forme humaine et lui dit « Lis, Iqra ». Et il répondit « Je ne sais pas lire ». Littéralement, il répondit « Je ne suis pas de ceux qui lisent ». Jibril répéta « Lis ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Je ne sais pas lire ». Et Jibril répéta une troisième fois « Lis ». Et le prophète répéta une troisième fois « Je ne sais pas lire ». Jibril alayhi salam le prit alors dans ses bras, le serra très fort et lui dicta ce qui allait être les premières paroles du livre sacré. Il lui récita les premiers versets du Coran. Il lui dit « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le plus noble. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quitta alors la grotte. Il descendit du mont Jabal al-Nur en regardant le ciel, car il fut surpris de voir que Jibril y était assis sur un trône entre le ciel et la terre. Il retourna tout tremblant chez lui auprès de Khadija radiallahu anha. Il dit « Couvrez-moi, couvrez-moi » et il ajouta « Je crains pour ma vie ». Alors il raconta à Khadija radiallahu anha ce qu'il venait de vivre. Alors Khadija lui répondit d'une réponse pleine de vérité, mes frères, avec des mots pleins de sincérité, de justice et d'authenticité. Elle lui dit « Je le jure par Allah, Allah ne t'humiliera jamais. Tu maintiens les liens de parenté, tu composes avec tout le monde, tu assistes les nécessiteux, tu donnes l'hospitalité aux autres et tu aides à faire triompher la vérité. » Mes frères, mes sœurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se mit alors à prêcher son peuple et à les appeler vers Allah. Il s'attacha pendant 23 ans à accomplir sa mission qui était de sortir les gens des ténèbres vers la lumière en toute modestie. En toute modestie, car il avait l'habitude de dire à ses compagnons « Ne me déifiez pas, ne faites pas de moi un dieu comme certains ont déifié Jésus, fils de Marie. Je ne suis qu'un serviteur d'Allah, dites donc de moi le serviteur d'Allah et son messager. » سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والحمد لله رب العالمين